Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue sur le poste national de la CRTV. Bienvenue à Politude, votre émission politique hebdomadaire sur le poste national de la CRTV. Au menu de cette édition de Politude, un invité de choix, le journal politique de Daniel Sopor, la chronique politique de l'éditorialiste Yves-Marc Mazzo. Bonjour, mesdames, messieurs. Surfant sur le terreau fertile de la décentralisation qui ouvre de nouvelles perspectives à la croissance locale, le Conseil régional de l'Ouest se positionne pour enclencher sa croissance. Les idées fusent, les projets foisonnent, les forces vives s'impliquent tant bien que mal, les perspectives sont de bon augure. Mais la tension foncière pointe à l'horizon dans cette région à la superficie connue et à l'importante densité de population. Le Conseil régional fait face et explore de nouvelles voies. La région de l'Ouest entre développement et questions foncières. Voilà le fil conducteur de cette édition de Politude. Le président du Conseil régional de l'Ouest, Dr. Jules Hilaire Foka-Foka, invité de Politude, trace la voie du développement futur de la région de l'Ouest, nonobstant la tension foncière. Gardez l'écoute, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur le président du Conseil régional de l'Ouest, Dr. Jules Hilaire Foka-Foka. Merci de nous honorer de votre présence dans cette édition de Politude.
Qui se situe dans le sillage de la fête nationale du 20 mai 2023. Monsieur le Président, bonjour.
Mais merci, bonjour à tous les auditeurs de la CRTV. Bonjour et merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler certainement de la région de l'Ouest. Et ça n'arrive pas très souvent, mais j'espère que c'est le début et pas la fin.
Monsieur le Président, à qui ou à quoi devez-vous votre élection comme président du Conseil régional?
Mon élection à la tête du Conseil régional de l'Ouest, je la dois à plus d'une personne. Je commencerai déjà par le président national du RDPC, M. Paul Biya, qui a bien voulu m'investir sur la liste des candidats pour le Conseil régional de l'Ouest. Ensuite, aux militants conseillers municipaux du RDPC qui ont voté la liste qui avait été investie par le président. Je reviendrai aussi au président de la République, au président du RDPC, le président Paul Biya, qui m'a investi comme le candidat au poste de président du Conseil régional de la région de l'Ouest. Et enfin, aux conseillers régionaux qui ont bien voulu plébisciter cette liste investie par le président national du RDPC. Donc, le président est intervenu, le président national du RDPC, M. Paul Biya, est intervenu à deux niveaux. Au niveau de la première investiture comme candidat et ensuite investiture comme candidat au poste de président de ce conseil. C'est à lui que je dois tout cela et je lui dis sincèrement merci pour cette grande confiance qu'il a bien voulu porter sur ma modeste personne. Vous savez, c'est une nouvelle structure et qui se veut être la structure d'élite pour le développement du Cameroun. Et s'il a bien voulu me choisir, vraiment, ça dit que c'est une très très grande confiance et je dois la mériter à travers la qualité du travail que je dois produire.
Vous êtes donc à l'œuvre depuis 3 ans aujourd'hui. Comment se porte la région de l'Ouest?
Parce que nous avons été installés en janvier 2021. Le vote avait lieu en décembre 2020, mais nous avons pris fonction.
Nous avons pris la borne de 2020.
Nous avons pris fonction le 22 janvier 2021. Donc, d'ici peu, on fera 2 ans et demi. Et vous me dites ce que nous avons fait ici depuis quand nous sommes là. Je pense que la première année qui était celle de la mise en place de la structure. Par la suite, nous avons pensé qu'il fallait déjà trouver un espace pour la construction de l'immeuble siège. L'espace a été trouvé d'une contenance d'environ 3 hectares. Et le fait comme nous avons monté les autres dossiers, notamment sur les études géotechniques, et pour accélérer la procédure. Donc, voilà ce que nous avons fait au cours de la première année. Mais malgré la mise en place, nous nous sommes dit qu'il faut quand même déjà donner certaine visibilité au conseil régional. Avec la petite enveloppe comme nous avons réalisé quelques projets au cours de la première année, des très petits projets là, et pour déjà permettre à la population de savoir que c'est une structure de développement qui est mise en place, c'est pas une structure budgétivore qui a été créée. Donc ça, c'était la première année. Et je reviendrai même, je n'ai pas terminé, pour la première année, nous avons aussi initié rapidement l'élaboration de notre plan régional de développement. Le plan régional de développement, on a commencé au cours de la première année, il s'est achevé l'an dernier. Ce plan est aujourd'hui disponible en version anglaise et en version française. Donc voilà ce qui a été le démarrage de la première année. La deuxième année, par contre, nous avons travaillé sur les quatre programmes. Vous savez, depuis les budgets, on a mis sur pied plutôt les budgets programmes. La première année étant sur un seul programme, le programme 4, celui de la programme sur la gouvernance. La deuxième année, on a travaillé sur les quatre programmes. Et les quatre programmes nous ont permis d'investir dans les domaines tels que la santé, où nous avons conçu, c'est vrai qu'il n'est pas terminé, mais ça va être fait dans les prochaines semaines, un service des urgences à l'hôpital de Dessy, à l'hôpital aujourd'hui régional annexe de Tchang. Vous savez, au niveau de la falaise, on avait suffisamment d'accidents et il n'y avait pas une structure de qualité avec un bon plateau technique pour répondre aux besoins de ces accidentés. Donc nous avons décidé de construire un service des urgences à l'hôpital de Dessy de Tchang. Toujours dans le domaine de la santé, nous avons procédé à la réhabilitation totale de l'hôpital du district de Pinka-Michel. À Banganté, nous avons équipé l'hôpital du district de Tchang en panneaux solaires parce qu'il fallait renforcer le système d'éclairage à l'hôpital du district de Banganté. À Bamendjou, dans le haut plateau, nous avons doté cet hôpital d'un appareil de radiographie. L'arrondissement de Bamendjou est un très grand arrondissement dans le haut plateau, très peuplé, et l'hôpital n'avait pas d'appareil radio. Comprenez que tout ce qu'il y avait comme accident ou bien des examens, des pathologies nécessitant la radiographie, ils étaient obligés d'aller jusqu'à Baham. Alors, nous avons doté cet hôpital d'un appareil radio. Ça, c'est pour ce qui est de la santé. Déjà au cours de la deuxième année. Nous avons, pour ce qui est de l'éducation, procédé à la construction de plusieurs salles de classe dans les lycées de la région, que ce soit du côté de Bafoussam, où on a conçu 7 salles de classe pour le CS de Kouékon, il en est de même pour le CETIC de Djinan. À Banjoun, au lycée de Yom 3, on a fait un bloc administratif et 8 salles de classe. Nous avons également conçu des salles de classe à Bafan, à Banja, des laboratoires scientifiques ici ont été conçus et équipés. Le plus important, c'est le lycée agricole de Galim. Vous savez, au Cameroun, il n'y avait qu'un seul lycée agricole à Yabassi et nous avons pensé qu'il faille construire un truc similaire à l'Ouest, surtout que la région de l'Ouest est une région agricole par excellence. Nous avons conçu un très grand lycée agricole du côté de Galim. Nous avons également investi dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, en construisant l'un des plus grands gymnases de ce pays à Bafoussam. Un gymnase avec 450 places assises. Un gymnase multisport. On n'en avait pas ici et c'était un peu gênant de voir les enfants jouer encore sous la pluie, sous le soleil. On leur a conçu un très grand bâtiment. Il n'est pas terminé, mais il va être achevé dans les prochains mois. Un gymnase à Bafoussam. Dans les lycées également, nous avons conçu des aires de jeu pour le sport. Qui dit sport dit épanouissement des enfants, des jeunes. Donc, dans plusieurs lycées, nous avons conçu des aires de jeu pour répondre vraiment à ce besoin. À côté de ça, nous avons travaillé également dans le domaine de la culture, du tourisme. Dans le Nou, nous avons conçu plusieurs points d'information touristique. Alors voilà ce qui a été fait au cours de la deuxième année. Et depuis cette année, nous avons encore franchi un pas de plus parce que nous avons attaqué aussi le domaine de développement urbain avec certaines routes, des routes du côté de Bazou. Dans le Ndé. Nous avons attaqué aussi le domaine de l'agriculture dans le Hongkam où nous sommes en train de multiplier 20 000 plants. Nous voulons produire 20 000 plants de palmiers à huile pour encourager les planteurs de palmiers à huile du côté du département de Hongkam. Je peux vous dire que nous avons attaqué les quatre domaines malgré la modicité de nos moyens. Vous savez, nous ne bénéficions pas encore des retombées de la fiscalité locale parce que la loi qui la concernant n'a pas encore été évoquée. On nous a fait comprendre qu'elle pourra passer à la session de juin à l'Assemblée et après nous espérons que très tôt le président va promulguer et pour permettre aux régions quand même d'avoir une enveloppe assez conséquente afin de travailler comme il se doit. Aujourd'hui, c'est la dotation générale de décentralisation. Depuis la première année, c'est 3 milliards qui ont été annoncés. Je dis bien annoncé parce que sur le plan de l'effectivité, ça n'a pas été 3 milliards.
Nous en reviendrons, docteur Jules Hilaire Foka-Foka.
président du conseil régional de l'Ouest. Voilà un bilan à mi-parcours de votre mandat. Mais la région de l'Ouest est réputée avoir une élite très puissante et très forte. Est-ce que vous parvenez à faire entendre votre voix?
Ben, ce que vous dites est très vrai, hein. Ça dit que l'Ouest, ça, c'est pas se jeter les fleurs, c'est une réalité. Elle a quand même une très bonne diaspora. Que ce soit diaspora intellectuelle, diaspora économique, elle a, on en a. Et je dois aussi vous avouer que la collaboration entre cette diaspora, que ce soit intellectuelle ou économique, et le conseil régional est parfaite. C'est une très très bonne collaboration. Nous sommes très bien assistés. On échange. J'ai effectué plusieurs voyages hors du pays pour rencontrer cette diaspora avec qui nous avons de très très grands projets pour l'avenir dans la région de l'Ouest. Donc nous échangeons régulièrement et d'ailleurs, il y a un événement qui était projeté pour novembre dernier qui a été reporté d'une part parce que cette diaspora avait demandé qu'on la décale afin qu'elle se prépare mieux. L'Ouest ne devrait pas faire des choses à moitié et devrait faire de très grandes choses. Alors, donc ça, la collaboration est parfaite avec la diaspora.
Alors ça c'est pour la diaspora à l'extérieur du Cameroun. Oui. Maintenant pour l'élite politique administrative très forte, très puissante, et commercial, économique que l'on connaît à la région de l'Ouest, quelles sont vos relations avec cette élite-là?
Ben, parfaite harmonie. Nous travaillons vraiment en symbiose pour le développement de la région de l'Ouest. Je les rencontre régulièrement, ils m'approchent, je les approche aussi, parce que là, pour le développement, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une bonne collaboration. Il faudrait qu'on se mette au même niveau pour réfléchir. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Donc, il faut beaucoup d'humilité pour travailler avec ceux-là. Et je pense que c'est ce qui se passe. Je les approche, on échange. Donc, je peux vous rassurer que la collaboration avec l'élite locale, l'élite économique ou même intellectuelle locale originaire de l'Ouest est parfaite. Que ce soit même au niveau de l'université de Tchang, je peux vous rassurer que le recteur de l'université et le conseil régional, nous travaillons main dans la main.
Monsieur le président du conseil régional, vous avez annoncé des actions phares de votre mandat, la création d'un parc industriel, la création d'un office régional de tourisme, la création de l'agence régionale de l'urbanisme, la création d'un village bio-émergent dans la vallée du Noun, la formation des jeunes au codage numérique. Votre ambition, c'est de faire de la région de l'Ouest un pôle économique attractif, incitatif et une destination touristique et culturelle par excellence où il faut bon vivre. Où en est-on avec tous ces projets que vous avez annoncés?
Vous avez parlé de Parc Industriel. Parc Industriel, effectivement, c'est notre objectif. Nous allons le réaliser. Nous allons mettre sur pied ce parc.
Où en est-il?
Le FECOM, à travers son directeur général et le conseil d'administration, ont pensé que les régions ne pouvaient pas continuer à être aussi dépendantes et qu'il fallait à un certain moment qu'on juste une certaine autonomie financière pour mieux réaliser le projet. En attendant la fiscalité locale, le conseil d'administration et DDG, ils ont décidé de mettre à la disposition de toutes les régions une enveloppe d'1 milliard de francs à investir dans un projet générateur de revenus. Parce que là, il s'agit d'un prêt remboursable. Et au niveau de la région de l'Ouest, nous avons pensé qu'il faille se doter des enjeux d'un parc, un parc de matériel de génie civil pour absorber cet argent. Nous sommes convaincus que cet investissement nous pourra générer des revenus et nous permettre de rembourser ce prêt. Et l'Office régional de tourisme est déjà opérationnel. Nous l'avons créé et le conseil régional, à travers une délibération, a validé la création de cet office de tourisme qui est déjà fonctionnel. Cet office a tenu sa première réunion du conseil de direction il y a environ un mois. Et je peux vous dire que cet office bénéficie déjà de l'accompagnement de l'Agence française de développement. Nous avons bénéficié d'une enveloppe de 70 millions de l'AFD pour construire ce bâtiment. Donc dans les prochains mois, l'office sera installé dans ses propres locaux. Là, vous comprenez que ça nous tient à cœur. L'Ouest étant une région de tourisme par excellence, il était opportun pour nous de mettre rapidement cette structure sur pied afin qu'elle puisse vraiment permettre d'atteindre nos objectifs en matière de tourisme.
L'autre projet phare, c'est le village bio-émergent dans la vallée du Noun.
Voilà, ce village bio-émergent, ça nous tient vraiment à cœur. Vous savez, ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, aujourd'hui, il est question de mettre sur pied des villes et bio, les villes bio-émergentes et des villes écologiques, hein, avec un minimum de pollution possible. Et c'est ce que nous voulons faire en créant cette ville bio-émergente dans la région, dans le département du Noun. Dans le Noun, nous avons encore suffisamment de foncier. Et vous savez, le Nounou représente plus de la moitié de la région de l'Ouest, 51% de la superficie de la région de l'Ouest. Il y a encore de l'espace là-bas et actuellement, le projet est bien avancé, mais nous attendons la mise à disposition du foncier dans ce département. L'autorité administrative de la place a été saisie. Le monarque du département, notamment Sa Majesté le Sultan du Nounou, a été approché également pour qu'on puisse nous trouver le foncier où on pourra réaliser cette ville bioémergente. C'est un rêve pour nous et je crois que ce serait une très grande première.
Enfin, il y a la formation des jeunes au codage numérique. Cela a déjà lieu. Et quel en est l'objectif en réalité?
Vous savez ce que c'est que le numérique aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est l'avenir.
Vous ne fabriquez pas des influenceurs qui vont polluer l'atmosphère numérique?
C'est triste que certains voient des choses de cette façon aujourd'hui pour les jeunes. Hein. Pour les jeunes, il faut leur faire comprendre que la fonction publique est presque saturée. Il faut des gens qui vont s'auto-employer demain. Alors, pour s'auto-employer, il faudrait qu'on passe par le numérique. C'est l'avenir. Et nous avons pensé que les jeunes de l'Ouest pouvaient bénéficier de cette formation parce qu'en étant ici à Bafoussam, un jeune peut faire des affaires aux États-Unis, au Canada, même en Chine, à travers sa tablette. Et c'est pour ça que nous avons signé un contrat de partenariat avec une ONG basée à Lyon en France appelée les 10 000 codeurs. Nous avons signé un partenariat pour former 800 jeunes chaque année au numérique. Au codage, là, 800 jeunes. La formation a commencé l'année dernière et ils vont bientôt sortir parce que à la fin de la formation, ils bénéficient d'un passeport numérique. Donc, les 800 jeunes ont été choisis dans les 8 départements de la région de l'Ouest. Nous avons saisi les maires des différents arrondissements qui sont les personnes les mieux placées pour nous produire les jeunes. Nous avons saisi les maires dans les 8 départements qui nous ont donné une liste des jeunes qui suivent une formation en ligne. Nous sommes en train de réfléchir pour la mise sur pied dans la à Bafoussam d'un centre régional du numérique.
Politude.
Politude. Le journal de la politique.
Marquons un arrêt dans cet entretien pour prendre des nouvelles de l'actualité politique avec Daniel Sopo. Bonjour Daniel.
Bonjour Achille. Ouvrons l'actualité politique de cette semaine avec le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de soutien onusien réaffirmé. Le nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, Aliou Mamadou Dia, a donné cette assurance au premier ministre chef du gouvernement au cours d'une audience de prise de contact à l'immeuble étoile. L'institution onusienne s'engage par ailleurs à matérialiser les nombreux projets en cours. Écoutons Aliou Mamadou Dia au sorti de cette rencontre avec Joseph John Kouté.
Je prends cette fonction sous le signe de l'engagement, sous le signe de la continuation en fait de tout ce qui a été fait par l'équipe précédente et mes collaborateurs, mes collègues qui sont là pour continuer à accompagner, à travailler avec le gouvernement du Cameroun sur les priorités de développement du Cameroun. Nous avons initié beaucoup de programmes et de projets avec le gouvernement, avec pratiquement tous les ministères sectoriels. Le programme majeur sur lequel nous travaillons actuellement avec le gouvernement, c'est le programme sur le relèvement, ce qu'on appelle le recovery programme pour le nord-ouest-sud-ouest. Donc le PNUD étant l'agent d'exécution de ce programme-là. Je suis venu m'entretenir avec le Premier ministre, d'abord pour me présenter à lui, mais surtout pour le remercier de la confiance que son gouvernement accorde au PNUD et au système des Nations Unies de manière générale. Donc nous avons fait le tour des questions de partenariat que nous avons avec le gouvernement, notamment sur la décentralisation, l'emploi des jeunes, sur l'autonomisation des femmes, les projets sur l'environnement, etc.
Année scolaire et académique 2022-2023, on a fait le point. Bon déroulement des cours, amorce des examens officiels et fin d'année. Ambiance particulière studieuse, le conseil de cabinet du mois de mai était consacré cette semaine à l'évaluation de l'année scolaire et universitaire déjà en phase terminale. Lors du dit conseil, les ministres en charge du secteur éducatif se sont succédés pour dresser le bilan pédagogique et les préparatifs des examens de fin d'année. Parmi les consignes gouvernementales, ne ménagez aucun effort dans la bonne organisation des examens officiels et concours. Prolifération des discours de haine, xénophobie et exacerbation du tribalisme dans les médias et les réseaux sociaux, ces comportements qui encouragent les replis identitaires visent indéniablement à dresser les Camerounais les uns contre les autres. Les médias sont parfois accusés d'être les relais de ces propos pouvant porter atteinte à la cohésion sociale et à l'unité nationale, notamment dans les émissions de débat qui se multiplient et qui mobilisent un nombre important de téléspectateurs, auditeurs et followers. Des tranches d'antenne pas toujours faciles à maîtriser par les présentateurs. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Attanganyi, dans un communiqué de presse, sonne la fin de la récréation et annonce la traque prochaine des auteurs et supports médiatiques favorisant la propagation des discours de haine. Le gouvernement réitère son aversion pour le phénomène nocif au Cameroun. Conférences de presse, communiqués de presse, campagnes de sensibilisation et répression sont au menu de cette croisade qui monte d'un cran face à la dérive. L'État et ses partenaires sont dans le bain. L'objectif général étant de tordre le cou non seulement à ces discours haineux, mais aussi de faire taire les adeptes de la manipulation qui, à travers médias et Internet, font grimper le fléau. De bonnes nouvelles qui nous viennent de Bamenda, les femmes récemment kidnappées par les combattants séparatistes après une marche pacifique le 19 mai dernier sont désormais libres. Certaines d'entre elles sont internées dans les formations sanitaires, tandis que d'autres ont regagné leur domicile, encore choquées et affaiblies par cette mésaventure. Pour autant, le calme n'est pas de retour dans le village Kedjom Kekou, dans la Mézam. Les routes sont bloquées et les activités paralysées. Le chef traditionnel de cette localité lance un appel à la solidarité avec son peuple. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite était au ministère des Relations Extérieures. Docteur Faisal Saoud Al-Mujfel est venu remettre au ministre Mbelambla un courrier du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al-Saoud. Les deux personnalités se sont entretenues sur la coopération bilatérale qui lie Riyad à Yaoundé. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle à plus de solidarité entre les nations africaines afin que vive la paix pour un développement harmonieux de tous les pays du continent. C'est l'essentiel du message lu cette semaine au ministère des Relations extérieures par l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Narcisse Ahounou Manlan, à l'occasion du 60e anniversaire de l'Union africaine, une cérémonie à laquelle prenait part le ministre des Relations extérieures, Mbelambula. Assemblée nationale, le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Iton, a reçu le secrétaire général parlementaire et président délégué de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. L'échange a porté sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun à tous les pays membres de cette organisation, à l'instar de la mobilité dans l'espace linguistique francophone. Achille, c'est avec cette information que nous mettons un terme au round-up de l'actualité politique de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous samedi prochain.
Merci Daniel.
Politude, le débat politique du samedi midi sur le poste national de la CRTI.
Retour à notre invité, le docteur Jules-Hilaire Foka-Foka, président du Conseil régional de l'Ouest.
On observe dans votre action, vous en avez d'ailleurs parlé il y a un instant, que vous mettez beaucoup l'accent sur la diaspora. Habituellement, on sait que la diaspora semble davantage participer à la vie de la cellule familiale. Aujourd'hui, vous donnez à cette diaspora un rôle plus élargi pour le développement de la communauté, notamment la diaspora qui est à l'extérieur du Cameroun. Est-ce que cette diaspora est consciente et est-ce qu'elle adhère à cette nouvelle orientation?
Je pense que la diaspora camerounaise attendait une telle occasion, une telle ouverture. Elle est très disposée. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui hésitent encore, il y a quelques-uns qui doutent encore, mais je crois que la majorité est partante. Elle est partante. Le gouvernement camerounais fait des efforts dans ce sens pour les rassurer. Vous n'avez qu'à voir avec cette structure de Red Corp qui est sous la houlette de l'Assemblée nationale et qui a à sa tête le président de cette commission à l'Assemblée, l'honorable Ngancha. Ce qu'il fait depuis un certain temps, il y a plein de réunions qui sont organisées à Yaoundé pour sensibiliser la diaspora à investir au Cameroun. Vous avez vu ce qui se passe dans certains pays d'Afrique de l'Ouest avec la diaspora de ce côté-là. Au niveau du Cameroun, je crois que notre diaspora paraît même plus puissante. Elle paraît plus puissante, la diaspora camerounaise à l'étranger. Mais il faut la rassurer, parce que certains mélangent tout. Ils mélangent la politique au développement. Alors il faut leur faire comprendre que la politique n'a rien à voir là-dedans. Le développement, aujourd'hui, on a créé des régions. Et on a dit, allez-y.
Chaque région doit pouvoir se développer avec ses propres moyens.
Alors s'il y a des gens qui avait encore certaines appréhensions que je ne veux pas aller là-bas, même si vraiment ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est qu'on doit se développer. Il faut développer le Cameroun de manière intégrale. On suscite vraiment l'adhésion de cette diaspora. Et pour vous rassurer que plus le temps passe, plus elle est rassurée et plus elle se manifeste. Quand nous sortons les rencontrer, on sent quand on leur tend la main, ils viennent et on échange. Ils ont peur d'une chose, il faut que je le dise, c'est les banques. Certains disent que nos banques, là, on a un peu peur, les banques camerounaises ne financent pas beaucoup
les gros
investissements, le développement. Alors que les banques doivent être impliquées dans ce processus. Elles ont aussi peur des tracasseries, certaines tracasseries. Vous le savez, ça, il ne faut pas qu'on se voile les yeux.
Tracasseries administratives.
Oui, certaines tracasseries administratives. On a des personnes véreuses dans l'administration. Quand ces gens de la diaspora viennent pour investir, certains leur demandent qu'est-ce que je gagne dans l'affaire. Qu'est-ce que je gagne dans l'affaire? Ma part, c'est quoi dans cette histoire? Pour utiliser notre langage. Ça aussi, ça décourage certaines personnes qui veulent venir mettre vraiment de l'argent. Et quand un individu s'enferme dans un bureau pour dire qu'est-ce que je gagne dans l'affaire, bloque un dossier parce qu'il ne trouve pas son compte, c'est mauvais. Donc, c'est nous tous qui allons nous battre déjà pour écarter ceux-là qui ternissent encore l'image du Cameroun à l'extérieur, qui freinent même l'arrivée de cette diaspora. Mais sinon, la diaspora est sensible, la diaspora est sensibilisée et je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller pour le bonheur de tous. Moi, je dis, cette diaspora même, quand on dit diaspora de l'Ouest, ne peut pas investir uniquement qu'à l'Ouest. Il faut qu'on se le dise. Hein? Ça ne peut pas être uniquement à l'Ouest. Cette diaspora pourra investir certes à l'Ouest, mais devra investir aussi dans d'autres régions.
Dans les autres centres du
pays. Oui, dans les autres centres. Quelqu'un qui vient venir mettre 40-50 milliards, mais il s'est dit, bon, mon affaire, est-ce que ça peut prospérer vraiment à l'Ouest? Ce n'est pas de l'argent qu'on vient jeter ou dans le littoral. Ils sont à côté d'un port. C'est une ville économique, c'est la grande, grande ville économique. Alors certains préfèrent peut-être investir là-bas et avoir peut-être une agence ou une filiale du côté de l'Ouest. Ça, c'est même les originaires de l'Ouest. D'autres préfèrent investir dans le centre et avoir une filiale ici. Il faudrait que les gens comprennent que la diaspora de l'Ouest ne pourra pas investir qu'à l'Ouest. C'est se tromper. Le développement du Cameroun se veut intégral. Il faut maintenant que les gens intègrent cela et qu'on rejette cette idée d'autochtonie, allogénie. Vraiment, si on met cette histoire de côté, je pense que les gens seraient plus à l'aise à investir là où ça peut leur rapporter. En étant sûr que demain, on ne leur dira pas de rentrer chez eux.
Monsieur le Président, au cours d'un de vos déplacements, vous êtes allé à la rencontre de la diaspora. Vous aviez annoncé l'organisation des toutes premières rencontres économiques de découverte et d'exhibition de la région de l'Ouest. De quoi s'agit-il?
Nous voulons vendre l'Ouest. Nous voulons présenter les opportunités qu'offre la région de l'Ouest aux investisseurs, les opérateurs économiques, la diaspora et les opérateurs économiques. Nous voulons déjà leur présenter notre plan régional de développement avec les projets qui s'y trouvent. Et c'est ça, vendre la région de l'Ouest. Nous avons des projets estimés environ à 6 000 milliards dans ce plan régional de développement. Il faudrait bien que les investisseurs soient au courant. Il faudrait qu'on leur explique quels sont les avantages à venir investir dans la région de l'Ouest. Donc, nous voulons vendre la région de l'Ouest sur le plan économique. Nous voulons ici également, quand vous avez suivi, on a des découvertes aussi, découvertes et d'exhibitions de la région de l'Ouest, qu'ils découvrent l'Ouest avec ses richesses. Les touristes doivent découvrir l'Ouest, savoir que la région de l'Ouest est une destination touristique par excellence. Destination culturelle aussi par excellence. Déjà touristique, vous savez, toutes les chaufferies de l'Ouest sont des sites touristiques. Sur le plan culturel, les danses patrimoniales que nous avons dans la région de l'Ouest, chaque arrondissement, chaque village a une danse. Elles se font habituellement tous les deux ans. Alors sur le plan culturel, c'est quelque chose de très 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 attrayant pour les touristes. Donc nous voulons présenter ça aux touristes, nous voulons vendre la région de l'Ouest à travers cet événement qui aura lieu du 11 au 17 décembre 2023 à Bafoussam. Et concerne toutes les populations de la région de l'Ouest et concerne tous ceux qui ont envie d'investir la région de l'Ouest, dont les bailleurs de fonds, la diaspora.
Monsieur le Président, avez-vous les moyens de ces ambitions? De cette belle politique.
Ce que je dois vous dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'argent. Il faut chercher. L'argent, il y en a au pays, il y en a à l'extérieur. Mais il faut prouver à ceux qui ont cet argent que investir à l'Ouest, ce n'est pas une perte. Il faut leur expliquer. Et les gens ont de l'argent, ils cherchent où investir, mais en toute sécurité. Donc, par l'industriel, je vous ai dit, le FECOM est prêt à nous accompagner, a mis de l'argent à notre disposition pour un projet générateur de revenus. Si le FECOM valide notre projet, nous pourrons acquérir ces engins. Maintenant, pour le RIDEO, c'est l'occasion pour les investisseurs de venir négocier déjà, de venir arracher, s'il faut dire, certains des projets qui sont dans notre plan régional de développement, puisque c'est des projets qui sont productifs. Les moyens, nous allons les trouver. Nous avons une élite économique, même locale, qui est assez puissante. Le G30, voilà un groupe à qui nous nous sommes confiés et qui est prêt à nous accompagner dans la réalisation de ces RIDEO. Il y a d'autres hommes d'affaires aussi à qui nous avons tendu la main. Donc, nous y croyons fermement, ça devrait aller.
Est-ce que le conseil régional ne pense pas lui-même à créer ses propres moyens. Je vous donne un exemple, la construction d'un hôtel que vous mettez en location, qui vous rapporte de l'argent, la création d'une agence de voyage, Yaoundé Bafoussam par exemple, qui vous produit de l'argent.
Ben, pourquoi pas, pour le faire, il faut avoir de l'argent.
Il faut d'abord avoir les idées pour le faire.
Il faut avoir l'argent. Non, les idées sont là. Nous avons déjà tout ça dans notre plan régional. Et nous avons même prévu la mise sur pied d'une société régionale de développement qui devrait être cette société qui organise toutes ces grandes réalisations. La société régionale, elle va être mise sur. Mais quand je vous dis, les idées sont là. Maintenant, nous cherchons l'argent. Vous savez, depuis, nous fonctionnons avec la dotation générale de décentralisation. On annonce 3 milliards, mais ça n'a jamais été même 2 milliards. C'est toujours moins. La loi sur la fiscalité, nous l'attendons. Quand cette loi sera effective, je crois que c'est cette fiscalité locale qui permettra aux régions d'avoir un peu plus de moyens. Nous avons des projets déjà matures. Il faut juste des moyens pour investir là-dedans, pour réaliser. Donc, la région de l'Ouest pourra investir dans le transport, pourra investir dans les centres commerciaux, pourra investir dans les parcs de loisirs, qui seront des générateurs de revenus.
Nous gardons espoir.
Ça nous permettra cette fois-là d'être plus autonomes, parce qu'on dit que c'est une collectivité qui joue d'une autorité, une autonomie administrative et financière. Voilà la définition. Pour le moment, l'autonomie administrative, elle est progressive. Elle vient progressivement. Financière, elle le sera aussi quand nous aurons un peu plus de moyens que cela pour réaliser nos propres projets, pour investir, recruter même le personnel, parce que même maintenant, en termes de personnel, nous n'avons presque pas. Parce que nous ne sommes pas capables de recruter maintenant et les pays.
Docteur Jules Hilaire Foka-Foka, président du Conseil régional de l'Ouest, nous allons aborder un autre aspect de notre entretien de Politude. Il s'agit notamment de la cohabitation des communautés, de l'installation des individus et de l'accès aux fonciers dans la région de l'Ouest. Au cours des dernières semaines, les mois, on a l'impression de secousses consécutives à la montée des discours haineux au Cameroun. Est-ce que ces secousses ont atteint la région de l'Ouest?
Je dois commencer par dire que c'est une honte pour le Cameroun, une véritable honte. L'unité nationale qui a été construite depuis des années par le président Paul Biya, aujourd'hui a tendance à s'effriter par quelques personnes. C'est une honte. On a reculé de plus de 20 ans, même 25. La cohabitation, elle était pacifique. Partout, le Camerounais se sentait chez lui. Mais aujourd'hui, c'est la honte. Il y a quelques personnes en quête de personnalité qui initient ce genre de discours haineux pour se frayer une place. C'est la honte. Que nous, Camerounais, nous ne puissions pas nous mouvoir ou bien investir où nous voulons sur l'ensemble du territoire. Quelqu'un de l'Ouest qui construit dans le Sud-Ouest, dans le Nord-Ouest, l'Est et autres, porte son argent, il investit là-bas, il embauche les gens de là. Il achète le matériel de construction au quincaillerie du coin. Cet argent reste là-bas. Cette maison va rester là. Comment est-ce que les gens peuvent combattre cela? Pour moi, c'est irréfléchi. Certains s'installent dans le coin, épousent même les femmes du coin, font des enfants. Ces discours haineux, moi, j'ai dit que c'est pour des personnes irresponsables, des personnes pour moi égarées. Le président de la République, dans son gouvernement, a des fils de toutes les régions de ce pays et a des haute fonction dans ce pays. Mais quand certaines personnes disent rentrer, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que ceux qui disent qu'ils vont rentrer chez eux, si moi-même, je dis aujourd'hui à quelqu'un de se rentrer, est-ce que c'est sûr que moi je suis plus originaire d'ici? Il y a des gens à Douala qui disent aux autres de rentrer alors qu'ils ne sont pas de Douala. Quelqu'un qui est par exemple de la côte, qui est de Yabassi, de Déa, qui se dit côtier et qui demande à quelqu'un du nord ou du nord-ouest de rentrer chez lui, il est de lui-même du littoral et de Douala. Alors, donc moi je dis, c'est regrettable, mais que nous ne sommes pas bêtes. Nous savons que c'est des personnes sans personnalité qui le disent, puisque le président national, le chef de l'État, il a toujours procédé à la promotion des fils de différentes régions et qui viennent s'installer à Yaoundé. Quand on fait la promotion d'un petit fils de l'Ouest qui réside à l'Ouest ou du Nord-Ouest, en poste ministériel de directeur, c'est pour qu'il aille à Yaoundé. Il ne l'a jamais fait en disant pour aller travailler pour Touchouvou. Les hauts responsables de ce pays, les ministres n'ont jamais tenu ce langage. Mais si des personnes quelconques, pour moi, quelconque tienne ce genre de propos, ça ne devrait vraiment pas nous affecter.
Monsieur le Président, à l'origine de ces secousses, la question de la tribalité, entre autres. Est-ce que la tribalité est négative dans l'absolu?
La tribalité n'est pas négative. C'est une fierté d'appartenir à une communauté. Chacun doit être fier d'appartenir à une communauté, sauf des déracinés ou des je ne sais pas quoi. Je suis très fier d'être originaire de la région de l'Ouest. Je suis très fier.
D'être fils de Bafoussam.
Être fils de Bafoussam. On le voit, ce n'est pas uniquement, c'est pas spécifique au Cameroun. Même en Europe, le Breton est fier d'être Breton. Le Corse est très fier d'être Corse. Mais il est français. Mais d'abord, il est fier d'appartenir à une communauté. On voit même en Afrique de l'Ouest, ici, c'est très sérieux. Tel dit que moi, je suis Wolof. Tel dit que moi, je suis... C'est pas spécifique. C'est une très bonne chose d'être fier d'appartenir à une tribu, à une communauté.
Qu'est-ce qui pourrait donc faire problème?
Ce qui peut faire problème, c'est que si cette fierté d'appartenir à une communauté va au-delà de cela en écartant maintenant les autres, en refusant que les autres aussi ne soient fiers d'appartenir à leur tribu. C'est ça où ça ne va pas. Je suis fier d'être originaire de l'Ouest, Bamileke. Mais ce n'est pas normal que je condamne quelqu'un d'autre qui est fier d'être peut-être Bororo, ou bien qui est fier d'être Bassan, ou bien d'être Douala. Ce serait plus normal, parce que pourquoi est-ce que je dois être fier d'appartenir à ma communauté, être contre qu'il appartienne à sa tribu? Que chacun soit fier d'appartenir à une tribu, mais ne soit pas contre quelqu'un d'autre d'appartenir à une autre tribu. Au contraire, cette fierté devrait faire en sorte que nous comprenions mieux, que je comprenne que l'autre là, s'il parle son patois passé, c'est parce qu'il est fier d'appartenir à cette tribu. Moi, je parle mon patois parce que je suis fier d'appartenir à ça, à ma tribu. Voir que c'est cette diversité qui doit faire un pays. C'est cette diversité de tribalité là qui doit faire un pays, qui doit faire même la fierté d'un pays. On parle plus de 240 ethnies au Cameroun. Mais ça devrait faire notre fierté. Parce que les autres nous apprécient, qu'ils sachent que quand on va au Cameroun, il y a diversité culturelle terrible. J'irai voir tel type de danse à l'extrême nord, j'irai voir tel type à l'ouest, j'irai voir tel type au sud, à l'est. Mais ça devrait faire plutôt la richesse d'un pays. Ça ne devrait pas être un des éléments de division, d'animosité.
Monsieur le Président, l'Ouest est une région cosmopolite où vivent des Camerounais venant d'origines diverses. Quelle est la principale caractéristique de la cohabitation de ces populations dans la région de l'Ouest? Tendu, calme ou alors c'est contrasté?
Moi je pense qu'à l'Ouest c'est assez calme. Hein? C'est assez calme, on s'accepte. Les problèmes tribaux ici c'est assez rare. Il y en a toujours, ça ne manquera pas partout, même dans les familles, s'il y a des petits problèmes. Combien de fois une communauté comme la nôtre, il y a des petits problèmes mais qui sont très vite neutralisés. Nous sommes des voyageurs, nous bougeons beaucoup. Nous sommes au sud, à l'est, au nord, par-ci, par-là. Mais si nous voyageons, nous allons nous installer chez les autres. Il faut qu'on accepte aussi que les autres puissent venir chez nous. Donc, par conséquent, nous sommes assez accueillants. Nous sommes assez accueillants parce que nous savons que nos fils sont à l'extérieur. Et pour préserver quand même le type d'accueil qui est réservé à nos fils, nous devons d'être aussi tolérants, d'accepter les autres chez nous. Parce qu'il n'y a pas plus voyageurs que les gens de l'Ouest.
Docteur Jules Hilaire Foka-Foka, président du conseil régional, abordons notre aspect de notre entretien, c'est la question du foncier.
À présent, c'est le moment de la chronique politique avec l'éditorialiste Yves-Marc Mozo.
C'est ainsi depuis la nuit des temps. La chance du Cameroun réside dans ces mélanges, cette multi-ethnicité, cette juxtaposition de cultures et de peuples, cette mosaïque de populations que la Providence a bien voulu nous offrir, bien avant la colonisation. À cette époque-là, figurez-vous, il n'y avait ni francophones, ni anglophones, ni quoi que ce soit d'autre, mais des descendants d'un ancêtre commun. Cette société camerounaise pluriethnique a toujours constitué une richesse que des esprits retors veulent aujourd'hui utiliser pour créer des antagonismes. On ne va pas refaire l'histoire. Sans doute que le long du parcours, il y a eu des épisodes douloureux, que des attentes n'ont pas toujours été toutes satisfaites, que des blessures ont été mal cicatrisées. Mais il ne fait pas de doute aussi que la volonté de vivre ensemble s'est toujours avérée plus forte que les manœuvres de délitement du sentiment national de notre appartenance à une seule et même nation. Comment comprendre que depuis quelque temps, certains compatriotes travaillent à rompre l'équilibre encore fragile de notre nation, travaillent à exacerber les tensions, à amplifier les dissensions entre Camerounais. Le discours haineux semble avoir le vent en poupe au Cameroun, et ceux et celles-là qui ont décidé de prendre les devants de cette campagne de haine procèdent par diverses méthodes. Fausses accusations, manipulations, insinuations, installation d'un climat de peur, de suspicion, de crainte, diabolisation de l'autre. Les uns sont présentés comme une gangrène, les autres comme des fossoyeurs, des représentations qui sont autant d'éléments de déclencheurs de haine. Dans les médias, les réseaux sociaux, les associations, les groupes de famille, une nouvelle phraséologie fait floresse. Face à toutes ces dérives, il est évident que les pouvoirs publics ne pouvaient rester plus longtemps les bras croisés. Désormais donc, cette tolérance zéro pour les discours haineux et la promotion du repli identitaire. Cette fois-ci, le gouvernement camerounais semble déterminé à apporter une réponse au proportionnel mal. Et ce n'est sans doute pas le fait du hasard si en l'espace seulement d'une semaine, on a vu monter au créneau tour à tour les ministres de la communication, de l'administration territoriale, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Pour dans un premier temps, sonner l'alerte, ensuite, rappeler l'arsenal réglementaire et depuis quelques heures, annoncer le début effectif de la phase répressive. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse, dit l'adage. Et le communiqué signé hier par le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, Galaxy Toga, ne fait pas dans la nuance. Les gendarmes, soldats de la loi, sont désormais mobilisés pour traquer et punir tous ceux et toutes celles qui veulent saper l'harmonie entre les différentes communautés, ceux et celles-là qui veulent s'attaquer à notre lien de sang. Il va s'agir désormais de trancher au vif, d'opérer à chaud. Affaire à suivre.
Politude, la pertinence des questions sur les sujets qui touchent l'intérêt de la nation.
Retour à notre invité, Dr Jules Hilaire Foka-Foka, le président du Conseil régional de l'Ouest.
Dr Jules Hilaire Foka-Foka, président du Conseil régional, abordons notre aspect de notre entretien, c'est la question du foncier. Est-il facile de s'installer dans la région de l'Ouest, notamment d'y avoir un logement et un lopin de terre?
Je dois vous dire que c'est assez difficile. C'est très difficile, pourquoi? L'Ouest est la région, la plus petite région du pays, sinon la plus petite des régions du Cameroun. 13 482 km², la région de l'Ouest est très très petite. Et c'est la région la plus densément peuplée du Cameroun. Vous comprenez qu'avec une petite superficie comme celle-là, et avec une forte population, c'est difficile. De nos jours, avec les problèmes de nos frères du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, on a plein de déplacés internes qui se retrouvent du côté de l'Ouest. Imaginez-vous déjà une région comme celle-là, assez petite, qui a aujourd'hui reçu des centaines de milliers de déplacés internes. Ça devient encore plus complexe. Je suis à la tête du conseil régional. Nous avons plein de projets à réaliser dans la région de l'Ouest. Depuis plusieurs mois, sur l'autorisation du gouverneur de la région de l'Ouest, nous avons saisi les autorités administratives, notamment les préfets, pour trouver du foncier pour la réserve foncière de la région du conseil régional de l'Ouest. Je peux vous dire que juste en date d'aujourd'hui, c'est encore très difficile. Très très difficile parce que les terres ne sont pas disponibles. L'homme de l'Ouest est très accroché à la terre. Déjà parce que dans nos cultures, un fils qui n'a pas sa maison ne représente rien. Tout fils de cette région doit avoir une maison. Même avant de se marier, c'est ce qui est exigé. Avant de se marier, il doit avoir sa maison. Il ne doit plus vivre chez ses parents. Et vous voyez, en fait, cette forte densité, ceux qui sont ici, même ceux de la diaspora, même à l'extérieur, doivent avoir leur maison au village. Ils peuvent construire 5-6 maisons à Yaoundé, à Douala, mais tant qu'il n'a pas sa maison au village, il n'est pas considéré comme un homme. Ça s'est limité aux hommes avant, aujourd'hui même jusqu'aux femmes. Une femme même mariée devrait aussi avoir quelque chose. Vous comprenez qu'avec cette étroitesse de terre, ça devient difficile.
La question foncière devient délicate.
Elle devient très très délicate. Très très délicate. On a plein de projets, mais on ne sait pas où on va les réaliser.
Donc là,
je disais encore dernièrement, lors d'une réunion présidée par le gouverneur, qu'il faudrait que les fils et filles de l'Ouest comprennent que désormais, les maisons en hauteur devraient être la priorité. Plus uniquement les villas où chacun a sa grande barrière, sa grande cour pour recevoir des amis lors de funérailles et autres. Il faudrait qu'on sache déjà que cette histoire va être dépassée. On devra construire peut-être des foyers, des grandes salles pour des cérémonies où on va recevoir des amis, plus nécessairement je sois dans sa grande cour, maison à l'étage, que quelqu'un construise, que le frère, le cadet, autre construise au-dessus. Si ce n'est pas le cas, ça va être très 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 compliqué demain. Parce que déjà les cultures, les plantations, nous sommes une région agricole, chacun va avoir son champ. Il n'y a plus d'espace. Il faut investir. Il n'y a pas suffisamment d'espace. Quand on parle de construction d'un véritable champ, des plantations, puisque les plantations dont on veut, on a besoin aujourd'hui, l'agriculture de deuxième génération, il faut des grands espaces, que ce soit mécanisé. Ces terres viendront d'où? On veut construire des usines, on veut faire ci, on veut faire cela. Les terres viendront d'où? Et je suis désolé pour ceux qui disent que les terres, on ne vend pas les terres aux étrangers, aux non-originaires de l'Ouest. Même les fils de l'Ouest ont de la peine à acquérir les terres. La diaspora, nous sommes en train de nous battre parce que pour les mesures, parmi les mesures incitatives pour faire venir ceux-là, il est question de leur trouver des endroits où ils peuvent construire. Ce sont ces mesures-là qui pourront leur permettre de revenir. On est en train de chercher des espaces pour des cités de la diaspora. Parce que tant qu'ils n'ont pas d'espace, ils viennent faire quoi? Donc il faut leur trouver des espaces. Et ça pose problème. Donc ce n'est pas uniquement des Alochènes qui n'ont pas facilement accès aux terres, même les autochtones. Moi qui suis fils de Bafoussam, j'ai acheté mes terrains. On ne me les a pas donnés. Et je n'ai pas acheté. Non, je n'ai pas hérité. Puisque mon père n'en avait pas hérité aussi. Les terrains que mon père a eus, il les a achetés. Moi-même, je les ai achetés. Et pas facilement, avec trop de difficultés. Donc, l'accès à la terre est compliqué pour les fils de l'Ouest, comme pour les autres.
Alors, la question foncière est effectivement à l'origine de frottements entre communautés différentes. Est-ce que dans la région de l'Ouest, il y a déjà des affrontements relatifs à la question foncière entre les communautés?
C'est assez rare. C'est assez rare. Je sais qu'on a eu un cas il y a quelques années dans le Hongkong, mais qui a été très vite maîtrisé. C'est toujours cette étroitesse de terre qui est à l'origine de ça. Un village qui s'étend sur quelques kilomètres carrés, et quand il y a peut-être des populations d'un village voisin qui viennent grignoter là, ça fait toujours mal parce que c'est trop étroit. Prenons la région de l'Est. c'est des espaces étendus là. Quelqu'un s'installe là, on ne sait même déjà pas si, depuis quand, ce qu'il en fait. Les terres, il y en a dans le sud pareil. Même dans l'extrême nord, il y a des terres. Vous n'aurez pas ce genre de problème là-bas parce que vraiment, ça ne sert à rien de disputer un mètre carré alors qu'il y a des dizaines de milliers d'hectares. Ici, il n'y en a plus.
Est-ce qu'il n'y en a plus parce que tout le monde voudrait s'installer dans les zones urbaines? Parce que dans les zones rurales.
Même dans les zones rurales, il n'y en a plus. Même dans les zones rurales, il n'y en a plus. Je vous ai dit que les gens sont très, très, très accrochés à la terre.
Quelle serait donc la solution?
L'une des solutions que je vous ai dit, c'est déjà de commencer à construire en hauteur. C'est l'une des premières solutions. Et que les gens comprennent qu'on n'aura plus besoin de très grandes cours chez soi. On n'aura plus besoin. Même si c'est les cultures qu'on essaie de trouver notre technique de culture de terre. Pour être plus rentable.
Pour tout dire, la situation va aller en, disons,
s'aggravant. Ça va aller en s'aggravant. Je vous le dis en tant que président du conseil. Ça va aller en s'aggravant. Parce que ces terres ne sont pas extensibles. Elles ne sont pas extensibles. Et les fils de l'Ouest, le taux de natalité est très élevé à l'Ouest. Il est assez élevé. Et chaque parent voudrait que son fils ait un lopin de terrain.
La question foncière dans la région de l'Ouest est une question à résoudre.
Oui, il faut en réfléchir, mais je ne sais pas quelle pourrait être la solution.
Alors, monsieur le président du conseil régional, vous l'avez dit que le conseil régional de l'Ouest ne dispose pas d'une réserve foncière.
Pas encore. Nous sommes en train de la constituer. Et elle est assez difficile parce que les espaces disponibles sont rares.
Conséquemment, il n'y a pas encore possibilité de disposer de lotissement dans la région de l'Ouest. Voilà qui est assez édifiant. Nous allons sortir par là et c'est ouvrir les voies du futur. Quel est votre grand projet pour la région de l'Ouest? À sortie de ce mandat, de ce premier mandat, quel est le projet que vous aimeriez brandir en disant « Voici ce que j'ai fait comme président du conseil régional de l'Ouest ».
Ben, les projets, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il faut hiérarchiser, ça va être compliqué.
Quel est votre projet majeur?
Je commencerai par dire que ce qui me tient beaucoup à cœur, comme beaucoup d'autres, mais ce sur lequel vraiment j'accorde une attention assez particulière, c'est le problème d'énergie. Parce que je saurais développer ma région sans énergie. Tout comme le Cameroun ne saurait se développer sans énergie en quantité et en qualité suffisante. Nous parlons d'industrialisation de la région de l'Ouest. Nous parlons de la transformation structurelle de l'économie, comme c'est dit dans SND 30. Pour y arriver, il faut de l'énergie. L'usine, il faut de l'énergie. Tout ce qu'on peut faire, il faut de l'énergie. Et on n'en a pas en quantité suffisante.
Ça inquiète
tout le monde. On nous a parlé de Nachtigal qui va nous envoyer, je crois, 400 combien, dans les prochains mois. Est-ce que ça pourra suffire? Parce que, vraiment, je veux pas étouffer ce que j'ai dans le cœur. Il y a longtemps, on nous avait cité un certain nombre de barrages que quand ce sera réalisé, le problème énergétique sera résolu au pays. Mais on se rend compte que plus le temps avance, plus c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu des études bien faites au départ. Les études n'ont pas été bien faites pour dimensionner et avoir vraiment savoir quelle est la quantité qu'il faut dans 10, 15, 20 ans. Ça n'a pas été fait. On a dû avancer des chiffres qui n'étaient pas réalistes au chef de l'État. Et on a misé dessus aujourd'hui. C'est pas ça. Vous convenez avec moi, disons-nous par moment, de vérité. Il y a longtemps, on disait qu'en 2020, le problème d'énergie électrique sera obsolète. On va passer dessus.
Nous y sommes.
Nous sommes en 2023 et les coupures sont plus qu'avant. Ça veut dire que la quantité n'avait pas été bien évaluée. Et on parle d'industrialisation du pays. On va industrialiser le pays sans énergie. Il y a le problème d'eau qui se pose par-ci, par-là. Et quand on saisit les gens de la société camerounaise d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie que les turbines ne peuvent pas tourner en plein régime pour produire de l'eau.
Et la boucle est bouclée.
Vous comprenez. C'est difficile. Donc il nous faut de l'énergie, il nous faut de l'eau. Mais comment faire? Nous réfléchissons. Il y a des alternatives aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut des moyens. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Il faut du solaire, les panneaux solaires. Il faut la biomasse. La région de l'Ouest y pense. Nous avons même dans notre projet de plan régional de développement des projets dans ce sens. Parce que tant qu'on n'a pas ça, on ne décollera pas. Donc quand vous me dites hiérarchiser, je peux hiérarchiser en commençant par l'énergie, qui est la condition sine qua non pour que les autres projets puissent démarrer.
Merci, monsieur le président du conseil régional, Jules Hilaire Foka-Foka, de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Politude. Pour terminer, quel est votre vœu pour le Cameroun?
Mon vœu le plus cher, la paix. Que le Seigneur donne la santé, la force au président Paul Biya pour qu'il puisse restaurer la paix dans ce pays. Les gens du nord, de l'est, nord, sud-ouest, qu'on retrouve la paix d'antan et qu'on se mette au travail. Ceux-là qui ont toujours prôné la division, qui tiennent ce langage haineux, que les mesures coercitives, la loi prévoit des sanctions à l'endroit de ceux-là, qu'on applique ces sanctions à leur endroit. Je pense que si on frappe deux, trois, les choses pourront revenir sur terre. L'unité nationale dans le temps qu'on la retrouve, la paix.
Merci, monsieur le président du conseil régional.
Politude, stop et fin. au générique. Avec l'aimable collaboration de Jacob Nguini, Christian Fouda Onana, Yolande Minko, Joël Noir, Daniel Sopo, je suis Achille Zam. Restez à l'écoute des programmes de la CRTV.